Parti. Ça vous est arrivé pendant ces dernières semaines de ne plus entendre ce qu'on vous disait? Vous écoutiez la radio, vous regardiez la télé, les infos, les réseaux sociaux, et à un moment, à force d'entendre les mêmes phrases, elles n'imprimaient plus. C'est assez fascinant, c'est le paradoxe du cliché. Un terme d'imprimerie, à l'origine c'est une technique de reproduction, le cliché une plaque qui porte l'empreinte d'une page et qui permet de la copier en un grand nombre d'exemplaires. Et puis le cliché, c'est un terme qu'on a tellement dit et répété, usé et abusé, qu'il n'imprime plus. Un mot, une expression, une image qu'on dit toute faite, parce qu'elle est devenue mécanique. Comme la machine d'imprimerie, on remâche du déjà lu. On peut l'utiliser sans réfléchir, le cliché, sans penser, sans rien dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, ça n'engage à rien. Mais en fait, c'est loin d'être innocent. Parce que c'est la fin de la singularité, le cliché. C'est l'enfer du même, c'est la paresse, c'est la facilité. C'est un langage sans surprise, sans création. Ça a l'air de rien, comme ça. Un mot, une image, une expression. Mais chaque fois qu'on les utilise, on porte quand même une vision du monde. Et c'est là toute la fourberie du cliché. On ne risque rien sur le papier, mais il y a une petite responsabilité quand même, c'est qu'on produit du rien.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Mais avec quel mot commencer? On en a tant éculé des mots. C'est une question que se pose constamment mon invité, sans doute la plus iconoclaste des académiciennes, philosophe, philologue, amoureuse des mots, dont elle n'a jamais cessé d'interroger les pouvoirs et les usages. Elle nous fait l'amitié de sa présence pour ce retour du boomerang. Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, là c'est évidemment la spécialiste des mots que je m'adresse. Qu'est-ce que c'est un cliché?
Vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qui peut se reproduire à l'infini et qui du coup est dépourvu de sens.
Et à quels effets et quelles répercussions l'usage excessif de clichés a-t-il sur nous? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Je pense que c'est vrai qu'on n'entend plus et qu'en même temps tout va de soi. Là où ça devient grave, c'est quand c'est en politique. C'est-à-dire par exemple, pour moi, l'un des usages les plus vibrants du terme cliché, c'est celui qu'a fait, qu'en faisait Anna Arendt lorsqu'elle était dans le procès d'Eichmann, où elle disait
à Jérusalem en 61-62, une série d'articles pour le New York Times.
Voilà,
si je me souviens
exactement.
Bien.
Et elle disait, cet homme ne s'exprime plus que par cliché.
Criminel nazi.
Oui, le criminel nazi ne disait plus que des clichés. Et c'est comme ça qu'il se défendait. Il se défendait avec le « tout le monde a toujours dit ». Et c'est, vous voyez,
c'est comme ça qu'Anna Arendt explique la banalité du mal.
C'est exactement le mot « banal » qui doit figurer là.
Alors, depuis le début du confinement et encore aujourd'hui, l'espace médiatique est littéralement saturé par les discours d'experts en tout genre, d'hommes et de femmes politiques, de journalistes aussi. Quand vous allumez la radio, quand vous regardez la télévision, qu'est-ce que vous entendez, vous, au fond, la spécialiste des mots?
Rien.
Rien.
Rien. D'ailleurs, j'écoute de moins en moins pour la télévision confinée. Il y avait tellement la même chose partout, tellement les mêmes experts partout, qui disaient des choses contradictoires partout et tout le temps, que je n'ai plus beaucoup écouté.
Alors qu'est-ce que ce serait, Barbara Cassin, une parole qui apporte du sens, une parole qui voudrait vraiment dire quelque chose? Ça passerait par quoi?
Je pense que ça passe par, d'abord, une analyse de la situation avec bon sens. J'ai trouvé que beaucoup de choses étaient dépourvues de bon sens.
Pensez à quoi?
Je pense aux experts qui n'étaient pas capables de dire autre chose que des singularités chiffrées qui n'évoquaient rien et surtout qui faisaient simplement à la fois peur et indifférence.
C'est passionnant quand même, hein, parce qu'à vous entendre, les effets de cette crise sanitaire, on l'entend, ça se joue aussi dans le langage, dans une crise du langage, Barbara Cassin.
Oh, vous savez, tout est en crise en même temps, toujours. Hein.
Mais c'est intéressant l'idée d'une crise du langage.
Oui, la première des crises, j'évoque Thucydide, la guerre du Péloponnèse, parce que c'était tellement intéressant. La première épidémie, la première pandémie épidémique dans toute la Grèce, c'était la peste d'Athènes. Eh bien, la peste d'Athènes, il appelait ça comme une... Il comparait ça à la guerre civile. Il disait, oui, ça, c'est une stasis. Stasis, c'est un état... Ça a donné le... C'est un mot qui a donné état. C'est très étonnant, hein. Donc, c'est un état qui se renverse tout le temps. Bon. Et voilà, ça se renverse et ça se tient. Donc, dire qu'une épidémie est aussi une crise, et en même temps une crise politique et langagière, ça va de soi.
Lorsque je vous ai appelé pour préparer cette émission, vous m'avez confié que jamais auparavant, vous n'aviez été autant frappé par la connerie. Alors, dans la bouche d'une académicienne, j'avoue que ça m'a à la fois choqué et réjoui. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors là, c'est quelque chose qui, moi... Alors, pardonnez-moi, je suis grossière, c'est vrai. Ça veut dire que j'ai eu peur, non pas de l'épidémie, non pas, etc. Mais j'ai eu peur du fait qu'on voyait des choses et qu'on était incapable de les faire. Voilà.
Et vous en parlez comme d'une épidémie, de la connerie, là.
Oui.
Ah, qu'est-ce qui nous rend con, en fin de compte,
Barbara Cassin ? Je me demande. C'est même pour ça que je suis désemparée. C'est que je ne sais pas pourquoi, en ce moment, particulièrement, nous sommes aussi cons.
Ça vous arrive de céder à la connerie ?
Certainement tout le temps.
Un moment d'égarement, un instant de vulnérabilité, un petit accident, Barbara.
Non, un quotidien.
Comment on fait alors pour ne pas devenir con ? Parce que c'est ça, la vraie question.
Écoutez, je pense que d'abord...
Quelle politique de prévention, quel geste barrière ?
Il y en a beaucoup. L'un d'entre eux, c'est de regarder les choses de haut. Regarder les choses de haut et pas se noyer.
Vous voulez dire prendre de la distance, de la hauteur.
Oui, prendre le point de vue de Dieu, si vous voulez. Oui. Hein, bon, quand on peut. Bon. Et ça n'empêche pas d'aller jusque dans le cas. Donc il faut le bon sens, pour, à mon avis, ce qui empêche quand même très largement d'être con. Le bon sens, c'est de voir les choses d'en haut et d'aller, de descendre jusqu'au cas. Bon, quand on a parcouru ça... On a, en somme, on prête attention au monde et à l'autre, et à autre chose qu'à soi. Bon, donc ça, c'est évident que ça permet d'être un peu moins con.
Celle qui n'a aucun bon sens dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Ne me dites pas qu'elle ne vous a pas manqué, avec son actualité terrifiante mais non moins indispensable. Que se passe-t-il donc aujourd'hui lundi 8 juin ?
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite.
Soleil de juin, ticket en main, la réouverture de nos musées et monuments se poursuit ce week-end. Versailles, l'abbaye de Cluny ou encore le château d'Angers ont pu accueillir les premiers visiteurs printaniers. Et aujourd'hui, ce sont les tours et les remparts d'Aigues-Mortes ou encore le monastère royal de Brou qui se déconfinent. Dès demain, le musée du Quai Branly à Paris sera la première des institutions parisiennes à rouvrir ses portes avant le Centre Pompidou et le Grand Palais le 1er juillet. Le Louvre, ça sera le 6, ça glisse. Bene, 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 bene. Franco sur 2021, le festival des francopholies de La Rochelle qui devait se tenir du 10 au 14 juillet prochain a annoncé ce matin le report de ses concerts à 2021. Parmi ceux qui seront là, PNL, Necfeu, Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Roméo Elvis ou Catherine Ringer, tous les billets achetés restent valables pour l'année prochaine et le festival a mis en place un service de remboursement en ligne pour ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement l'été prochain. Voilà bien.
Chana.
Plus légère, plus petite et plus en ligne, la mode passe en mode d'après. La maison Chanel présente aujourd'hui sa première collection en ligne. Le défilé croisière de la griffe française, initialement prévu le 7 mai à Capri, serait dévoilé dès midi par l'intermédiaire d'une présentation live sur les réseaux. Directrice artistique de la marque depuis le départ du grand Carl, Virginie Viard, affirme qu'il va falloir repenser l'industrie avec des rythmes de fabrication et de présentation moins frénétiques.
Cours vers nous. Prince de l'espace, viens vite, viens nous aider.
Goldorago, samedi, une vente aux enchères exceptionnelle réunissant plus de 200 lots d'esquisses, de crayonnés et de celluloïdes consacrés au dessin animé japonais culte a battu tous les records. Et si on pouvait y trouver des planches d'Albator, de Nicky Larson ou des Chevaliers du Zodiac, c'est celle consacrée à Goldorak qui a remporté le plus de succès avec près de 400 enchérisseurs du monde entier. L'œuvre s'est vendue à 13 000 euros au marteau, près de 3 fois son prix estimé. Ça, c'est stylé. Et l'académicienne Barbara Cassin, invitée de Boomerang ce matin, j'aimerais avec vous revenir sur un mot qui restera évidemment gravé dans les mémoires, c'est le mot confinement. Ce mot, qu'est-ce qu'il vous inspire ? Qu'est-ce qu'il vous raconte ? à vous, Barbara.
C'est horrible, il est très vilain, c'est un vilain signifiant. Vous
il
entendez confinement. Bon, vraiment?
On parlait de con tout à l'heure, oui. Après tout. Quel effet est-ce qu'il a eu sur vous, ce mot, alors? Dans quelle mesure il a modifié votre rapport aux autres, au temps, à l'espace, à la pensée?
Oh, je suis naturellement assez confinée. C'est-à-dire que...
Décidément. C'est la matinée.
C'est-à-dire que c'est vrai que je travaille beaucoup toute seule et chez moi. Bon, le problème, c'est que ça n'a de sens que s'il y a un dehors et si je peux travailler aussi dehors et avec.
Un dialogue avec l'extérieur, oui. En fait, ouvert sur l'espace du dehors.
Sur l'espace du dehors. Et ça, c'est vrai que ça m'a manqué. Par exemple, j'ai des choses en train, des expositions en train, alors loin, avec Bénozère par exemple, donc j'aurais dû y aller. Et puis quelque chose en train avec Marseille, avec les écoliers de Marseille.
Alors justement,
ça j'ai laissé tomber.
Vous avez, quelques jours après l'annonce du déconfinement, co-signé avec votre fils, l'anthropologue Victor Legendre, une tribune pour Le Monde dans laquelle vous réfléchissiez au retour des élèves à l'école après le 11 mai. Ce retour à l'école, vous ne le regardiez pas d'un très bon œil, Barbara Cassin?
Mais si, j'aime beaucoup l'école, mais l'école déconfinée pour de bon.
Oui.
C'est-à-dire que j'imaginais que à un moment où il y avait encore beaucoup de chômage partiel, où les musées étaient fermés, les bibliothèques étaient fermées, les espaces de jeux, de sport, etc., eh bien, qu'on aurait pu vraiment déconfiner l'école, faire une école ouverte, je sais qu'elle existe l'été, mais la faire déjà, et tout le temps, et pour tous, et très vite.
Ça veut dire aussi que ça doit être un catalyseur de renouveau,
absolument,
en fait, ce moment.
Absolument.
Qu'il est temps d'inventer de nouvelles façons de faire, de repenser le fonctionnement de certains modèles, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques nous ont promis. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment que nos gouvernements aient vraiment saisi cette opportunité, cette nécessité de réinvention?
Ben, j'espère que oui, mais je n'y crois pas. Et j'ai très peur, c'est même mon angoisse. Je suis très angoissée en ce moment à cause de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va simplement faire la même chose, courir après les mêmes choses, en moins bien, parce qu'on aura pris du retard et qu'il va falloir...
Bon. Par manque d'imagination aussi?
Parce qu'on est ligoté dans des liens, je pense quand même, très largement économiques, et qu'on ne les distend pas. On n'est pas capable de s'en sortir.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait précisément réinventer?
Je pense d'abord qu'il faudrait que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que moi, ce qui m'ennuie, c'est que je ne comprends pas. Quand on me parle économie de dette, par exemple, je ne comprends pas. Je voudrais bien comprendre pourquoi c'est si ligotant. Et pourquoi, par ailleurs, on peut tout d'un coup trouver de l'argent, battre monnaie, pourquoi, tout d'un coup, on pourrait remettre la dette? Mais non, on ne va pas le faire. Mais si, mais non, un peu, enfin...
C'est encore un problème de langage.
C'est un problème de langage et d'institution. C'est un problème très très lourd, je trouve. Et déjà, pour moi, je serais moins angoissée si on arrivait vraiment à m'expliquer.
Qu'est-ce qui vous donne espoir, quand même? Par exemple, lorsque vous voyez, depuis le meurtre de George Floyd par 4 policiers, des hommes et des femmes se réunir dans la rue du monde entier pour manifester contre le racisme et les violences policières, malgré l'interdiction liée à la pandémie, qu'est-ce que vous dites?
Bon, je dis bravo et merci, et moi aussi. En même temps, je trouve très triste qu'on soit obligé de braver des interdits et de faire une manifestation grandiose pour quelque chose qui devrait aller de soi. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelques jours, quoi, il y a deux jours, il y a encore un petit gamin qui s'est fait massacrer l'œil parce qu'on lui a cogné dessus à coups de tatane. Alors que
jeune Gabriel.
Ouais, mais c'est pas possible.
Enfin. L'apaisement, Barbara Cassin, la réconciliation, la justice, ça passe par quoi précisément?
Ça passe par la parole, la vérité, à laquelle la meilleure vérité possible, disons. Ça passe par enfin quelque chose de l'ordre de la reconnaissance de ce qu'il y a, la reconnaissance des faits. Mmh. Et quand il n'y a pas de reconnaissance des faits, alors la colère est terrible et on a raison.
Et dans quelle mesure les mots, puisque vous parlez de paroles, hein, ont le pouvoir de réconcilier, de soigner, de réparer. Vous qui avez participé, je le rappelle, et c'est la raison pour laquelle je vous pose ces questions, à la commission Vérité-Réconciliation mise en place en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid.
Oui. Là, c'était quand même une situation extrême. C'est-à-dire que sans la commission Vérité et Réconciliation, il y aurait eu un bain de sang. Donc c'était la parole comme arme pour construire le peuple arc-en-ciel, pour construire la nation d'Afrique du Sud qui n'existait pas. Et cette parole, elle était donc partagée nécessairement. Avec une magnifique définition de l'amnistie, c'est la liberté en échange de la vérité. Donc la seule exigence, c'était que tout le monde dise tout.
On va reparler de ça, de langage, de mots, de renaissance aussi, avec un titre de la fin, un titre du renouveau aussi, justement. Wyclef Jean qui remixait le concerto pour une voix de Saint-Preux sur l'album Carnival en 1997. C'est un monument, vous êtes sur France Inter avec Barbara Cassin. Vous écoutez Boomerang, Back on Track.
One, two, the headline news is broke through.
Apocalypse.
3-4, soldier, 100 horsemen at your door.
Apocalypse.
5-6, you want it dead or alive?
Hit or miss.
We are. Arrival of the carnival. New beats I never recycle. Why you looking for samples? You might get trampled. Surprise, hey, I'm back with lightning and thunder. I heard you over saying I'm a one-hit wonder. You dumb as summer, winter, refugees till infinity. When I'm done, collect royalties from record companies. Clouds getting darker, sun's getting nearer. I turn an atheist to a God-fearing believer. The back of a building, your body's found by children. Playing hide-go-seek, what we found was your skeleton. In the back of a car, you spar with the wrong cards. You know my empire's strikes back hard, Mrs. Lawrence. War is the day after ashes. Project cannons being launched at the palace. Vision revelation, sky road apocalypse. Enemy pilots kamikaze into the abyss.
Ah.
1-2, the headline news is broke through. 3-4, soldier, 100 horsemen at the door. 5-6,
wanted dead or alive.
Hit or miss. On earth, the party's at the tunnel on the west side of the river, where man quiver, rats get fed to the alligator, gun blasts equivalent to the bombs in Pearl Harbor, rescue choppers, Brooklyn turn to Hiroshima, I'm driving to Jersey to escape the terror, I was on the highway pushing a black Viper, a car pulls up, is he a jack or a sniper, a blue Range Rover, he says pull over, I didn't know he was a DT undercover, I screamed out my lungs, this is discrimination, what's the charge, he said you just robbed the gas station. Who, me? Not me. It couldn't be. I was at the Grammys with Brandy. Didn't you see me on TV? Bullshit. You're all in the same
game. He tried to run me off the road.
Like he was Roscoe Pico Train. I stayed calm, gave him a hell of a show. Cause if it's ever time to go, all I gotta press is turbo. Heard him on his walkie roadblock on 280 West. Things got serious. That's when I bust the left U-turn. My tires burned. My concern was the truck coming head on collision within a second chase position. Close one. I almost went up in a blaze. Running from what appeared to be a masquerade. At least that's what I thought. It was all in my mind. Reality struck when I got to the borderline. The headline reads every ghetto sad story. A rookie shoots a boy over mistaken identity.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle est là. Elle est face à moi, la boucle indomptée, le regard Napoléon, le sourire contagieux, la passion, l'intensité, l'interrogation. Elle nous donne aussitôt envie de briser les règles élémentaires de distanciation. Sauf que devant nous, posé sur la table, eh bien, il y a des masques. Le mien qui est tout à fait élémentaire et le sien qui est un des plus classiques. C'est un petit blanc, ça ne nous change pas. Du confinement, Barbara Cassin, invitée de Boomerang pour parler de mots, de langage et de langue au pluriel, puisque c'est pour vos travaux sur la traduction, notamment, que vous êtes fait connaître du grand public. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, traduire?
Traduire,
Barbara,
ça veut dire savoir faire avec les différences. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le modèle par excellence pour les sciences humaines.
Alors à quoi ça tient une bonne traduction?
Ouf, bonne, j'en sais rien, il y en a sûrement plus d'une. Déjà, ça tient à ça.
Oui, c'est une question passionnante, parce que il se trouve que vous avez récemment fait traduire certains de vos textes, notamment un texte sur la traduction, avec un logiciel de traduction assisté par ordinateur. Alors il faut nous raconter, qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, j'étais en train de... On me demandait de faire une intervention en anglais, comme ça, tout à fait improvisée, sur le livre que je venais de publier, donc L'éloge de la traduction. Et j'étais un tout petit peu coincée. Et donc j'ai mis...
Ah, vous êtes allée sur Google Translate ?
Non. C'est beaucoup moins bon que DeepL. Excusez-moi,
d'accord.
Je fais de la pub, mais je n'ai pas de participation à DeepL.
Et alors, quel résultat ?
En l'occurrence, j'ai mis des bouts. C'était génial, c'était parfait. Et je me suis dit, bon, bah, c'est que je ne sais plus écrire.
Passionnant.
Oui, je ne sais plus écrire, puisque ça se traduit si bien.
Et comment expliquez-vous que le résultat ait été au-dessus de vos attentes, justement ?
Mes attentes, elles étaient très mauvaises, hein, parce qu'avec Google Translate, c'était pas génial.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre langue, l'usage que l'on fait de la langue s'est appauvri ?
Non.
On n'a pas assez recours aux spécificités de notre langue ?
Non, je crois pas. Je crois que, si vous voulez... Une écriture, un style, repose sur à la fois des termes qui ont plusieurs sens, qui ont beaucoup d'ambiance,
oui. Hein,
qui viennent d'ailleurs, qu'on entend parce que ça résonne dans notre culture.
Pour certains, ce sont, vous dites, des intraduisibles.
Oui, intraduisibles. Ce que j'appelle intraduisible, c'est ce qu'on n'arrête pas de traduire. Hein. C'est ce qu'on n'arrête pas de mal traduire. Bon, mais moi, j'ai travaillé sur les intraduisibles en philosophie. En l'occurrence, toute la poésie est, si vous voulez, intraduisible, parce qu'en plus, il y a les sons. Mais enfin, en l'occurrence, c'était des phrases relativement simples, mais en même temps qui charriaient pas mal d'ambiguïté et volontaire. Eh bien, c'était parfait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas trouver de meilleurs équivalents. Donc je me suis dit, bon, bah, je ne sais plus écrire.
Pour autant, est-ce que vous diriez, Barbara Cassin, qu'une langue est toujours incomplète, quelque part ? Quels sont les mots qui, dans votre langue maternelle, le français, par exemple, vous manquent, vous ?
Il me manque depuis une autre langue. C'est-à-dire que c'est jamais de l'intérieur du français que ça me manque. D'abord parce que, en français, c'est ma langue maternelle, ça veut dire que c'est une langue dans laquelle je peux inventer constamment. Mais quand je regarde depuis dehors, par exemple, le mot... portugais, saudade. Oh, c'est pas tout à fait la mélancolie, c'est pas tout à fait le spleen, c'est pas tout à fait, etc., etc.
C'est la saudade.
C'est la saudade. Bon. Alors, voilà, des mots comme ça, d'une certaine manière, c'est parce que j'ai un dehors que, à l'intérieur du français, il y a une place creuse.
Quand est-ce que les mots nous font le plus défaut, Barbara Cassin ?
Ben, quand on les... Les mots, moi, j'ai honte, mais... On dirait que ça me fait jamais défaut, les mots.
Oui.
Non.
Même pendant cette période
non.
De confinement.
Non, ça m'a pas fait défaut. Mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la différence de ce qu'on, la différence des langues. C'est-à-dire, par exemple, je travaille avec des enfants de classe UPE2A, c'est-à-dire des classes d'accueil, hein, et je leur pose la question : quel est le mot de ta langue maternelle qui te manque le plus ? Et quel est le mot du français ? Qui t'étonne le plus ?
Qu'est-ce qu'ils répondent ?
Ah, mais c'est magnifique !
Donnez-nous des exemples.
Oh, bah, là, m'a dit merci. Merci, ça n'existe pas comme ça dans sa langue maternelle. Et on comprend bien. D'un seul coup, on entend ce que veut dire merci en français. Mmh. Merci, ça veut dire pitié aussi. Hein ? Avoir merci.
D'ailleurs, c'est la traduction de ce mot en anglais. Mercy, c'est la pitié.
Oui. Eh bien, ce mot, tout d'un coup, lui, il l'entendait. Et donc, ça lui manquait dans sa langue.
Barbara Cassin, à vous écouter quand même, j'ai l'impression que parfois les mots ne servent qu'à une chose, c'est de masquer le vide.
Ah bon ? À m'écouter, vous entendez
non.
Ça, c'est grave.
Non, 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 à vous lire, à vous avoir lu. Il arrive qu'on les use pour ça, qu'on les abuse aussi pour ça.
Oui, bien
sûr. En ce sens, il faudrait s'en méfier.
On revient au cliché.
Ouais.
Un cliché, c'est un mot qui masque quelque chose de si usé que c'est du vide. Et dont on se sert pour masquer le vide. Oui, ça c'est vrai.
Ça vous effraie le vide, vous ?
Le vrai vide, non. Le vide masqué, oui.
On est beaucoup masqué en ce moment. Mais face au vide, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites, vous ?
Ben, j'essaye de l'explorer.
En écrivant ?
En le déployant. Déployer le vide, c'est quelque chose de tout à fait passionnant.
Il se trouve que vous nous avez écrit un texte qui parle du vide, du fait d'être vidé, désemparé. C'est le titre que vous lui avez donné.
Oui.
Et j'aimerais que vous nous le lisiez.
Volontiers. Ce texte n'est ni un texte de colère, ni un texte de protestation. C'est pire, je suis désemparé. Il y a de quoi pourtant être en colère. Entre pénurie et mensonge, nous sommes un nouveau genre de nation du tiers-monde, sauvé par le bricolage et l'héroïsme, dont celui des invisibles. Le virus vient de rendre cela parfaitement clair. Bien sûr que ça ne doit pas recommencer comme avant. Mais moi, j'ai peur, horriblement peur, que cela ne recommence comme avant, en pire. Si je suis à ce point désemparée, c'est parce que je ne comprends pas ce qui arrive aux hommes, au genre humain. Pour le dire comme je le pense, je ne comprends pas pourquoi nous sommes devenus si cons. Comme le disait il y a 20 ans un président du CNRS, on va dans le mur, mais on a allumé les phares. Nous savons tous, Trump inclus, dont les terrains de golf vont s'enfoncer dans la mer de Floride s'il ne parvient pas à les vendre avant. Nous savons tous que le dérèglement climatique est devant nous, avec des conséquences terrifiantes. Ces conséquences, nous les expérimentons chaque jour. Il y a 2 jours, c'était la fonte du permafrost, l'effondrement des réservoirs de diesel à Norilsk, en Sibérie, 20 degrés au pôle, avec possible libération de virus inconnus. Comme c'est exotique. Mais nous savons tous aussi qu'avec le confinement, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de manière spectaculaire, dixit le monde, 30%, ai-je cru lire. Cette expérience mondiale, involontaire, est une réussite à laquelle personne ne s'attendait. Inimaginable. On n'y croyait pas. Et pourtant, on pourra. On pourrait. Je suis désemparée. Parce que je ne crois même pas que l'on soit en train d'essayer. Malgré les litanies de Nicolas Hulot, le temps est venu de transcender la peur en espoir. Le temps est venu de croire en l'autre. Le temps est venu de la dignité pour tous. Oui, 100 fois. 100 fois, il est venu le temps. Malgré Jeanne d'Arc, Greta Thunberg, que je salue. Malgré les justes tribunes que l'on pourrait toutes signer, j'ai bien peur que le pays, le monde, ne court encore et toujours après la même chose. On va seulement repeindre en vert une croissance grise et brune. Voilà pourquoi je suis désemparée. Qu'est-ce qui arrive à l'homme pour qu'il voie, pour qu'il veuille et qu'il ne fasse pas? Pour qu'il se ligote entre Trump, Bolsonaro, Kim Jong-un, etc., etc., pour qu'il ait tout faux? L'émission de gaz à effet de serre diminue, la dette augmente. Drôle de vase communicant. C'est pourtant bien là qu'on en est, je crois. Nous allons changer de paradigme, faire de la croissance avec du vert. Ça va coûter, mais ça va rapporter. On va calculer. Mais avec quelle unité commune au désastre et à l'économie? Un comité ou deux d'économistes, pourquoi pas? Je n'ose attendre des solutions, mais j'attends en tout cas qu'ils me permettent de comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça, la dette? J'ai beau essayer de lire, d'écouter, je ne sais toujours pas. Ça ressemble un peu à l'attestation de déplacement dérogatoire. On se la signe à soi-même, on la remplit au crayon, on en garde une autre dans la poche, on se prête entre soi, à soi-même, et on bat monnaie. On pourrait l'annuler ou tout comme la reporter, ad vitam aeternam. Pour certains, pour tous, je veux bien croire que tout est verrouillé avec le capitalisme néolibéral. Mais comment? Il suffit d'y croire? Et si je n'y crois pas? Et si je n'y crois plus? Et si plus personne n'y croit? Désemparée, je vous dis.
Merci, Barbara Cassin, pour ce texte fort. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Boomerang. Merci pour les mots, surtout, et la lumière que vous leur donnez. Tout de suite, Sonia De Villers et son Instant M, qui nous ont tant manqué. Sonia, est-ce que vous m'entendez?
Quel plaisir d'être à nouveau réunis.
Un mur nous sépare, Sonia. J'espère que vous avez votre masque.
Mais c'est rien.
Je le décrirai la prochaine fois.
Ces 3 derniers mois. Allez, salut, Augustin. Salut. On lance le Boomerang et il reviendra demain matin.
J'espère bien.